Cube Radio.
Cube Radio.
Cube Radio. Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués, Vincent Desseaux.
Alors ces jours-ci, alors que c'est la saison des vacances, plusieurs personnes, familles sortent un peu de la ville pour se retrouver à l'extérieur, loin de la pollution urbaine, la pollution lumineuse, et peuvent regarder, et des fois moi qui habite à Montréal ou qui habitais à Québec, quand on va loin, là, tu fais « wow, ok, le ciel est donc bien magnifique », un peu plus loin, un peu en dehors de la ville, et c'est là qu'on peut apercevoir des étoiles filantes, et particulièrement dans les prochains jours, parce que on arrive dans la saison des fameuses perséides, donc où le ciel va s'illuminer davantage qu'à l'habitude. Quoique cette année, je comprends que la Lune vient un peu gâcher le spectacle, mais en étant bien informé, on pourra tirer le meilleur de cette période où ça vaut la peine de regarder vers le ciel particulièrement. On en parle avec le directeur du Planétarium Rio Tinto de Montréal, Olivier Hernandez. Monsieur Hernandez, bonjour.
Bonjour.
C'est toujours à peu près à ce temps-ci de l'année, les perséides. Qu'est-ce qui fait que cette année, il y a quand même un défi supplémentaire?
Le gros défi cette année, c'est la Lune qui a choisi d'être pleine Lune au moment au maximum, en fait, du phénomène des Perséides. Donc, la Lune se lève à peu près vers 21h le vendredi 12 août. Et c'est aussi le début de la nuit et c'est à ce moment-là que la Terre et Montréal est correctement positionnée pour être dans le maximum de l'essaim de météorites. Ce qui fait que malheureusement la Lune va un peu nous gâcher la vue sur ce coup-là, mais la chance que l'on a, c'est que les perséides, en fait, ça commence à peu près à fin juillet, ça finit à peu près à la mi-août, le maximum étant aux alentours du 11-12 août généralement, donc on peut quand même en profiter avant et après. Et puis, c'est toujours une belle occasion aussi de voir la Lune, alors il faut en profiter.
Donc, est-ce qu'il y a des heures, mais qu'est-ce qu'on vise si on veut éviter le plus possible l'éblouissement de la Lune?
Alors, le mieux, ce serait de regarder dès maintenant, le soir, s'il fait beau, bien sûr, parce qu'en ce moment, le ciel n'est pas très dégagé, mais je pense que dans les prochains jours, ça va commencer à se dégager. Donc, profitez du fait que la Lune et le diamètre lunaire est beaucoup moins grand, il est encore entre la fin de premier quartier et le début de la pleine Lune, ou alors attendre un petit peu à passer le 12 et un peu plus le 13, le 14. La Lune, elle, va se lever un petit peu plus tard, et ça va nous permettre d'observer un peu mieux le phénomène et d'être débarrassé de la Lune et de voir en fait ces étoiles filantes là. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que le 12 était le maximum du phénomène, donc c'est là où on pouvait voir jusqu'à une centaine de météorites d'étoiles filantes en fait par heure à peu près. Il faut s'attendre à en voir un petit peu moins, mais comme on sera dans des meilleures conditions avec la Lune qui aura légèrement disparu, qui ne sera pas encore levée, à ce moment-là, on pourra quand même en voir certaines. Et c'est une belle occasion pour en profiter, parce que les nuits d'été sont très très belles et très agréables pour observer le ciel, et ça c'est magique.
Ouais, ça donne une occasion de s'étendre, relaxer. En plus, on est en vacances pour ceux souvent qui peuvent l'observer. Rappelez-nous, qu'est-ce que c'est exactement les perséides? Pourquoi à chaque année, à ce temps-ci de l'année, on a ce spectacle-là céleste?
Alors, ça vient de la queue d'une comète, en fait, la comète Swift-Tuttle qui a une période de rotation autour du Soleil d'environ de 133 années, en fait, et qui est passée dernièrement près de la Terre en 1993, et qui, à chaque fois qu'elle fait un passage près du Soleil, en fait, laisse un tas de débris, en fait, si vous voulez, c'est de la poussière de comète, et qui reste à un endroit, et que la trajectoire de la Terre rencontre chaque année à peu près à la même période. Donc on rentre dans cet essaim de poussière, et c'est cette poussière-là qui font à peine un millimètre en fait de diamètre, qui, parce qu'elles sont quand même très rapides, on parle entre 20 000 et 60 000 km/h, viennent se frotter à l'atmosphère terrestre, et en se frottant à l'atmosphère terrestre, elle s'échauffe, et c'est ça qui fait cet éclat-là, et qui crée ces étoiles filantes-là. Alors on appelle ça des météorides, parce que ce sont des poussières de comètes qui ne tomberont pas en fait sur la Terre elle-même, parce qu'elles vont se consumer dans l'atmosphère terrestre, et c'est cette illumination-là qui donne l'impression en fait de voir beaucoup d'étoiles filantes. Et comme la Terre, à ce moment-là, se dirige vers la constellation, en fait, de Persée, on a l'impression qu'elle vienne de la constellation de Perséide. Elle vient de la constellation de Persée, donc on appelle ça les Perséides. Et c'est un peu comme un sentiment, comme en hiver, et puis je suis désolé de rappeler l'hiver au moment en plein milieu de l'été. Mais comme quand en auto ou dans un autre véhicule, vous vous déplacez dans une tempête de neige, mais vous avez l'impression que les flocons viennent dans votre direction parce que vous vous déplacez dans cette tempête de neige-là. Mais c'est exactement, je dirais, la tempête de neige d'été qui rentre et qui vient illuminer le ciel. Là, c'est vraiment le même phénomène.
Mais c'est quand même, c'est assez fascinant, je pense, pour nous qui sommes pas spécialistes, c'est que c'est pour la misère à comprendre à quel point c'est petit versus ce que ça fait dans le ciel. Ça montre à quel point la vitesse est importante pour créer autant d'énergie que ce soit visible du sol de façon aussi vive, alors qu'on parle de quelque chose d'aussi petit. Est-ce que c'est souvent ce qui est mal compris des gens, à quel point justement ce sont des poussières?
Oui. En fait, on s'en rend pas bien compte. Et quand justement, lorsque l'on utilise des caméras beaucoup plus sensibles que notre œil pour observer ces phénomènes-là, c'est là où on s'aperçoit qu'il y en a vraiment beaucoup, en fait, parce que les capteurs des caméras sont capables de voir beaucoup plus de lumière que notre œil. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que, alors que l'œil ne voit juste une traînée, par exemple, d'étoiles filantes, un capteur de caméra très sensible, lui, va en voir des centaines et c'est tout à fait surprenant. Et oui, la taille, cette petite tasse de la taille, ça surprend énormément les gens, mais ce sont vraiment des petits grains de poussière. Il y en a des fois des un petit peu plus gros que quelques millimètres. Et ceux-là vont éclairer encore plus le ciel et on peut même les voir se désagréger au fur et à mesure qu'ils progressent dans l'atmosphère. Et c'est assez spectaculaire, mais il n'y en a jamais de très très gros en fait qui sont accompagnés avec ce nuage-là, avec ces nuages-là en particulier. C'est pas le seul essaim de météorites que notre planète traverse. En fait, il y en a d'autres. Il y a les Géminides, les Quaternides. En tout cas, il y en a énormément qui sont au cours de l'année. Celui-ci est remarquable parce qu'il est en plein milieu de l'été. On est en vacances, on a le temps et le goût en fait de le voir. Mais celui des Géminides est encore plus impressionnant, mais lui, il est en plein milieu du mois de novembre, début décembre, et il fait beaucoup plus froid et c'est moins agréable que de rester plusieurs heures dehors avec un petit verre de vin chaud.
Est-ce que quand même l'hiver, c'est plus le ciel est plus souvent, c'est moins humide? Est-ce que la visibilité est meilleure qu'en plein été?
Ça dépend. Oui, il y a moins d'humidité qui remonte en fait parce que le ciel est beaucoup plus sec, mais ça veut rien dire. Ça dépend où, un peu au Québec. Mais c'est surtout que le phénomène des Géminides est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus en fait d'étoiles filantes par heure qui sont prévues que pour l'essaim en fait des Perséides. Le nuage que l'on traverse à ce moment-là et contient plus de particules que celui des Perséides. Alors si les Géminides étaient décalés au mois de en août, on verrait une différence entre les deux quand même. Mais je crois que l'important en fait, si on veut voir ce phénomène-là, c'est vraiment, comme vous le disiez au début, c'est de s'éloigner des villes, des grandes villes qui ont beaucoup de pollution lumineuse, parce que ça reste quand même des phénomènes qui sont très faiblement lumineux. Et donc, en s'éloignant des villes et en prenant le temps de les observer dans la direction de la constellation de Cassiopée, par exemple, que les gens repéreront plus facilement parce que c'est une espèce de W. Si vous regardez à peu près dans cette direction et que vous regardez légèrement du côté de l'œil, où la partie de l'œil est plus sensible, bah, au bout de quelques minutes, quand votre œil s'est adapté à la nuit, vous allez être capable de voir quelques étoiles filantes qui proviennent des Perséides. Ça risque d'être spectaculaire. Et je suis persuadé que les gens vont rapidement se rallier au cri de joie habituel en criant des « waouh », des « hey », qui est le bruit que l'on entend le plus lorsqu'on observe les étoiles filantes.
En terminant, vous êtes directeur du planétarium Rio Tinto, qui s'est refait une beauté il y a quelques années. Oui. Là, c'est ajouté l'insectarium à côté de vous, le biodôme. Oui. Donc, ce coin-là doit avoir beaucoup de demandes. Les touristes, les gens du Québec aussi, qui doivent faire la file pour vous visiter cet été?
Oui, tout à fait. En fait, les 5 musées d'espace pour la vie, la biosphère, le jardin, l'insectarium, le biodôme et le planétarium sont tous très occupés pendant l'été. On a vraiment une forte demande et je recommande aux gens d'aller sur le site d'espace pour la vie pour pouvoir réserver leurs billets. Là, il y a quelques jours d'attente, dépendamment des musées, mais ça vaut le coup de réserver sa place. En fait, il faut le faire, même, on est obligé de le faire depuis la pandémie. Et ça garantit d'avoir sa place réservée dans nos musées. Et j'encourage les gens aussi à prendre un passeport qui permet de visiter nos musées, nos 5 musées pendant une année complète gratuitement. Alors c'est ça qui est intéressant aussi. Et ça permet d'avoir accès aux musées et de sélectionner des dates, peut-être à des moments un petit peu moins achalandés que pendant l'été même. Mais oui, on a beaucoup d'achalandage. Je pense que c'est très rassurant. Ça veut dire que les gens sont intéressés à la culture scientifique et veulent aussi s'engager en faveur des changements climatiques. Et ça, c'est très important.
Ben, on va vous souhaiter une bonne fin d'été et de visite. Donc, les gens pourront aller consulter votre site pour pouvoir visiter le planétarium et pourront tout simplement sortir du chalet ou de la tente pour voir le spectacle dans le ciel pour les prochains jours. Olivier Hernandez, merci beaucoup pour vos lumières. Ça a été très intéressant.
Merci beaucoup.
Merci Olivier Hernandez, acteur du planétarium Rio Tinto de Montréal.